Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le créneau conférence sur Radio Albigès. Ce soir, nous vous proposons d'écouter des échanges qui ont eu lieu le 4 décembre 2019 sur la Fac Champollion d'Albi. Des échanges qui ont suivi la projection du film 120 battements par minute. C'était un événement qui était organisé par le planning familial du Tarn. Alors 120 battements par minute, c'est un film français qui retrace les débuts de la création d'ACT UP, ce groupe militant pour les droits des personnes homosexuelles et qui poussait un petit peu les pouvoirs publics à prendre au sérieux la question du sida, du VIH et des autres IST. À la suite de cette projection, un échange a eu lieu entre les personnes qui ont assisté à la projection et plusieurs personnes représentant des associations différentes. Alors il y avait par exemple des représentantes du planning familial du Tarn, il y avait des représentants de l'association Diversité Pastel pour les droits des personnes LGBTQI+ dans le Tarn, de l'association AIDE ainsi que du Refuge. Nous vous proposons donc d'écouter ces échanges. Tendez l'oreille, alors nous sommes désolés, le son n'est pas très très bon sur cette prise de son, mais les propos sont intéressants et valent le coup d'être entendus. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti.
Peut-être un peu où on en est aujourd'hui du sida, parce qu'il faut être un peu positif, non? Est-ce que ça refroidit, positivé, donc peut-être qu'il sera donc personne dans un peu. Et puis réagir, des questions. On peut vous accompagner aussi sur le type de réflexion qu'il peut y avoir, et sur le film, et sur la situation aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Du coup, moi je me présente, Joseph Cachot, bénévole de l'association Diversité Pastel, qui est la première association LGBT du Tarn. Et à côté de ça, je suis également volontaire à AIDE, l'association de lutte contre le VIH et les hépatites. Alors ouais, je pense qu'il faut quelques minutes quand même pour digérer, pour se remettre de ce film. On va le voir 2, 3, 4 fois, on se rend compte quand même qu'il y a eu du progrès depuis, heureusement, de l'évolution sur les traitements et sur la maladie. Heureusement, on parle plus de VIH aujourd'hui que de sida, finalement, même si le sida persiste encore et encore. Pour vous donner quelques chiffres, en gros, je ne sais pas si tout le monde fait la différence entre le VIH et le sida, mais le VIH, c'est le virus. Le sida, c'est la maladie. Aujourd'hui encore, 32 000 personnes en France sont séropositives, mais ne sont pas sous traitement. Il y a 26 000 personnes qui n'ont même pas été diagnostiquées. On sait qu'elles sont séropositives, mais n'ont pas été dépistées. D'où l'importance des dépistages, d'où l'importance de la prévention. Parce qu'en gros, avec l'évolution, on n'est plus dans ces années-là, et l'évolution des traitements, des avancées qu'il y a pu avoir autour du VIH, une personne aujourd'hui séropositive, qui est diagnostiquée séropositive et qui est sous traitement, sous trithérapie, vit correctement et normalement, comme tout un chacun, comme vous et moi, et vit peut-être même mieux qu'une personne qui est séronégative ou qui n'est pas séropositive, car finalement elle est suivie de très près, avec des prises de sang régulières, avec des examens cliniques approfondis sur différents sujets, sur le foie, sur les poumons, sur les reins, des examens approfondis réguliers, que d'autres personnes lambda, finalement, ne font pas. Ils passent des dizaines d'années sans faire la moindre prise de sang. Je reviens en fait sur l'importance du dépistage et une fois de plus de la prévention. Le dépistage qui est un outil de prévention aujourd'hui. Car certes, l'annonce ou la nouvelle ou d'un résultat positif au VIH, je pense que c'est jamais agréable. Mais on vit bien avec le VIH aujourd'hui, même si ça peut paraître bizarre, c'est pas du tout pour dédramatiser, mais le plus important en fait c'est de savoir. pas de vivre et pas de se mettre en danger soi-même et de mettre en danger les autres, et de connaître son statut sérologique, que ce soit pour le VIH, mais que ce soit pour les hépatites ou les autres IST. Parce que certes, même si les autres IST, même si les hépatites, on peut en guérir aujourd'hui, et on peut ne pas avoir de séquelles si c'est durant les mois après une contamination. Si on passe 3 ans avec l'hépatite C ou la VIH, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas vraiment de dégâts. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations, des choses à dire sur ce film ?
Ça à peu près, un peu plus.
Ça, c'est des traitements qui remontent à il y a 20 ans.
Ah, il y a 20 ans.
Ouais, parce que je pense que le film, l'année du film, c'est dans les années 90.
D'accord.
C'était des traitements, c'était certes une trithérapie, mais un traitement très lourd et avec des effets indésirables qui étaient difficilement supportables. Là, heureusement, pareil, sur les traitements, il y a un panel de trithérapie qui est proposé aux personnes séropositives selon. Comment l'organisme accepte et comment les effets indésirables réagissent par rapport à chacun, en fait. Donc aujourd'hui, une trithérapie, il n'y a plus du tout les effets indésirables qu'on voit dans le film. Une personne qui a un résultat, qui se retrouve séropositive aujourd'hui, va être mise sous traitement très rapidement, c'est dans les jours qui suivent, et peut ne même avoir aucun effet indésirable.
Expliquer peut-être un peu les traitements, notamment l'effet de les traitements précoces qui aujourd'hui permettent aussi.
La PrEP. Ouais. En gros, le traitement, c'est une trithérapie. Une personne séropositive, pour qu'elle soit strictement indétectable. Quand j'entends strictement indétectable, c'est qu'on ne détecte plus la charge virale, le virus, dans le sang. C'est le souci un peu qu'on a avec le VIH, c'est qu'on arrive à l'éradiquer du sang par la trithérapie, mais on n'arrive pas à l'éradiquer dans les réservoirs du corps, c'est-à-dire le cerveau, le foie, le cœur. Donc une personne va être mise sous traitement demain. Au bout de 6 mois, en prenant son traitement tous les jours, donc c'est une boîte, un comprimé à prendre tous les soirs, tous les matins, tous les midis, mais à prendre tous les jours, au bout de 6 mois, elle va se retrouver strictement indétectable. Donc plus de charge virale dans le sang. Donc elle ne sera plus non plus contaminante. Elle pourra avoir des relations, préservatifs et tous les outils de prévention qu'on maintient, il faut toujours, pour les autres IST, pour les hépatites, avoir en tête. Mais admettons, une personne séropositive qui a une relation non protégée avec une personne séronégative, il n'y a aucun risque de contamination. C'est vrai qu'on aurait tendance à se dire que si, mais non. Il y a une sérophobie ambiante qui reste, mais justement le film le montre très bien sur le VIH et sur le sida. Mais une personne séropositive sous traitement et qui est strictement indétectable n'a aucun risque de contamination. C'est pour ça qu'on dit que le traitement est également un outil de prévention. Donc certes, elle pourra transmettre d'autres IST, le chlamydia, la gonorrhée, la gonocoque, ou une hépatite, mais elle ne pourra pas transmettre le VIH. Du coup, par le traitement, il y a également un autre outil de prévention. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui connaissent, on avait peut-être entendu parler, la PrEP, qui est en fait la prophylaxie pré-exposition. Donc, en fait, on va se servir du traitement, de la trithérapie, comme un outil de prévention. Donc une personne, après ça peut arriver à tout le monde, on est tous humains, et l'oubli de préservatif, ou alors... Dans une soirée un peu trop arrosée, on sait qu'on va avoir une soirée un peu arrosée, pas le week-end prochain, le week-end d'après. Il y a aujourd'hui en fait le moyen de prendre une trithérapie ou une bithérapie, maintenant, comme un outil de prévention. Alors, soit si on sait qu'on a des pratiques à risque et qu'on peut ne pas mettre le préservatif régulièrement, on le prend quotidiennement. Comme une personne séropositive, on va prendre une trithérapie tous les jours et on sait qu'il n'y a aucun risque d'être contaminé par le VIH. Ou alors, Ça peut être aussi une prise occasionnelle. On sait que le week-end prochain, on a un festival et qu'on va picoler et qu'on ne fera peut-être pas attention à, ou on ne pensera pas, ou on aura oublié, ou on n'aura pas envie de mettre le préservatif. On peut prendre du coup un cachet, c'est deux cachets 48 heures à l'avance, deux cachets de trithérapie ou de bithérapie, 48 heures avant la prise de risque. Donc, admettons, on sait que samedi soir, on aura une relation non protégée. On prendra deux cachets de trithérapie 48 heures à l'avance, on prendra un cachet 24 heures à l'avance, on prendra un cachet le jour même et un cachet le lendemain de la prise de risque. Et là, c'est également un outil de prévention. On sait qu'on se protège du VIH. On soit bien d'accord, on se protège que du VIH. Pas des IST, pas des différentes IST, une fois de plus chlamydia, gonorrhée, et pas des hépatites non plus. Apparemment, c'est-à-dire
J'ai vu sur Internet qu'il y avait beaucoup de personnes qui
après, je pense personnellement que ça dépend des personnes, en fait, des organismes. Comme tout traitement, c'est quand même un traitement qui n'est pas anodin, c'est une trithérapie, qu'on soit d'accord. Enfin, quand on voit les effets dans le film que produisent les traitements, on les a complètement réduits aujourd'hui, mais forcément, il y a des effets indésirables. Peut-être pas pour tout le monde, mais des antibiotiques peuvent avoir des effets indésirables pour toi et pas pour moi. Tu vois ? Donc pour certaines personnes, et peut-être au début, le temps que l'organisme s'habitue au traitement, il y aura certains effets indésirables, mais ce n'est pas les effets indésirables qu'on voit dans le film, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des diarrhées, ça peut être des maux de ventre, ça peut être... Mais on n'en est pas dans les excès qu'on voit sur les premiers traitements qu'il y avait contre le VIH, comme pour le VIH.
Et est-ce que toi, sur les effets secondaires, tu avais entendu des éléments en particulier
Je crois que justement, les parlais de diarrhée, de troubles du sommeil, etc. Apparemment, j'ai pris la somme sur 10.
D'accord. Donc ta question, ta question, elle correspondait à peu près à ce que vient d'avancer Joseph Lacarno. C'est le dire, est-ce qu'il y avait d'autres effets secondaires auxquels tu en as parlé, qu'on puisse en discuter, quoi.
Voilà. Et après, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir quelques petits effets secondaires et être assuré d'être au moins protégé contre le VIH, qui est une maladie, malheureusement, pour l'instant, irréversible. C'est un traitement à vie, on n'arrive pas encore à la soigner, à l'éradiquer. Autant, je ne mets pas du tout les autres IST et les hépatites de côté. Mais les hépatites, on arrive à les guérir maintenant, si elles sont dépistées suffisamment tôt. Et les différentes IST également. Là, pour le coup, on parle du VIH, du SIDA, qui reste une des IST qu'on garde et qu'on traîne à vie. Quoi. Donc, peut-être quelques maux de ventre et de nuit sans sommeil valent le coup. Se protéger.
J'aurais voulu savoir, moi, parce que tu parles effectivement de trithérapie en prévention, mais où on trouve ces médicaments, qui la prend, à qui elle est conseillée, ou est-ce que, ça peut nous. Parce qu'on pourrait penser qu'elle va nous voiler à libérer du préservatif par rapport au VIH, ce risque-là que l'on peut avoir et avoir ce comportement de dire bon bah j'ai plus besoin de prendre préservatif ou alors je suis un public j'ai de multiples partenaires des comportements à risque et ça il faut peut-être aussi se dire qu'est-ce qu'on entend par comportement à risque mais si je suis dans cette situation où je trouve le traitement. Ça s'achète en pharmacie, en libre vente en pharmacie ou aujourd'hui on en est où?
Parce que si on devait l'acheter en pharmacie, ça nous coûterait cher. Hein. Parce que quand même à savoir et à se mettre en tête, une trithérapie, un traitement par mois, le coût, et on a de la chance d'être en France, clairement, c'est entre 1200 et 1300 euros.
Par mois.
Une trithérapie par mois.
Pour un comprimé chaque jour?
pour un comprimé chaque jour. Une boîte de 30 comprimés, c'est 1260, alors selon les traitements, mais c'est 1270 euros par mois. À savoir que je ne mets pas du tout de côté le préservatif et que ça reste le moyen oui. le plus sûr de se protéger contre toutes les IST, que ce soit le VIH, que ce soit les hépatites, et que ce soit le chlamydia, la gonorrhée. Mais il y a des risques quand même. Le préservatif, ça arrive à combien de personnes qui craquent ou qui... C'est arrivé. À côté de ça, il y a aussi des personnes, et qu'on le veuille ou pas, on est tous différents, qui ne mettront jamais de préservatif, et qui ne veulent pas mettre de préservatif. Alors après, on a le droit de juger, pas de juger, on n'est pas là du tout pour ça. La PrEP, du coup, cette trithérapie en prévention, propose juste un outil et un moyen de prévention supplémentaire pour les personnes qui sont incapables, mais on ne va pas les juger, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, de mettre un préservatif, ou des personnes qui savent que le week-end prochain, elles vont passer un week-end de folie, et qu'elles vont se mentir, elles vont boire, elles vont se saouler, et puis à 5h du matin, après une dizaine de verres, qui sait qui va penser, quand il a une personne en face de lui, qu'il est attiré, qu'il a du désir, qu'il y a de l'excitation, qu'il y a... Est-ce que parce qu'on n'a pas de préservatif, on se dit, bon, ben, on prend une tisane, on va se coucher, honnêtement.
Donc, C'est possible.
Je dis pas que c'est pas possible. Mais, on a la chance, en fait, d'avoir un outil, vraiment, de prévention supplémentaire. Je dis pas qu'il faille le prendre, enfin, je suis pas...
Mais cet outil de prévention, donc...
Tu l'as comment ?
Oui, comment
il y a ça ? Il faut déjà prendre rendez-vous avec son médecin traitant.
D'accord.
Ensuite, passer par un infectiologue qui va évaluer les pratiques de chacun. Okay. Il faut avoir des pratiques à risque. Parce qu'une fois de plus, ça a quand même un coût. Hein. On va pas mettre toute la population sous PrEP,
bien sûr.
Donc sous trithérapie, dans le but d'empêcher d'essayer d'éradiquer le VIH et le sida. Mais certaines personnes... Et puis, il y a des publics cibles. Aide, par exemple, à des publics cibles, c'est les HSH, les hommes qui ont des relations avec des hommes, les migrants, les consommateurs de produits, qui, mais de par leur consommation et par leurs habitudes, en fait, ne font plus attention, n'ont plus le réflexe de se protéger et de protéger les autres.
Il y avait une question, par contre.
Ouais. Oui, c'est exactement ce qu'on était en charge, une fois qu'on a été évalué. On peut l'utiliser, c'est en charge par une mutuelle sociale
ou... C'est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. La mutuelle complètement de côté. Et en plus de ça, il y a une confidentialité qui est mise en place, donc la mutuelle n'est même pas au courant de la prise en charge de que ce soit de la PrEP ou d'une trithérapie dans le cadre d'une séropositivité.
Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, ce sont des médecins spécialistes que les personnes vont voir, ou des associations où il y a une équipe médicale. Par exemple, les Cégides, est-ce qu'ils font des PrEP en prévention? Je ne dis pas en traitement.
Dans les grandes villes et à tout bout, je sais que oui.
D'accord.
Les docteurs du Cégide sont sensibilisés et orientent. Certaines personnes vers un infectiologue dans le cadre d'un parcours PrEP, parce qu'un parcours PrEP peut durer, peut ne pas être à vie. Pendant un an, on va prendre des risques et on sera amené à prendre des risques. Donc on peut très bien prendre la PrEP pendant un an, pendant 6 mois, et puis arrêter finalement, se mettre en couple et puis complètement arrêter.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Albigès dans votre créneau conférence et ce soir on vous propose d'écouter les échanges qui ont suivi la projection du film 120 battements par minute le 4 décembre 2019 sur la fac d'Albi. Parmi les personnes qui s'expriment lors de ces échanges, vous pouvez entendre entre autres des représentantes du planning familial du Tarn, de l'association Diversité Pastel, de l'association Aide ou encore de l'association Le Refuge.
Après, c'est vrai que dans les plus petites villes, je ne suis pas sûr qu'au Cégide, mais on pourra en discuter avec le médecin et avec l'infirmière. Est-ce qu'ils orientent ? Est-ce que...
Pour Albi, c'est
vrai. Ouais. Pour Albi, mais d'autres villes plus...
Des petites villes, quoi, oui. Et Aide, par exemple, ou Diversité Pastel, comment ils se situent par rapport à ça, sur les accompagnements ? Parce que je suppose que sur Diversité Pastel, vous devez accueillir des publics qui ont des comportements peut-être plus à risque dans leurs relations sexuelles qui sont... plus atypique hein, par rapport, soi-disant les hétéros, mais enfin bon.
On accueille peut-être un public cible, mais on en parle. On en parle au sein de l'aide, il y a des parcours d'accompagnement PrEP, où on accompagne même les personnes physiquement jusqu'à aller voir un infectiologue et puis discuter des différentes pratiques et de ce qui peut être mis en place. Est-ce que la mise en place d'un parcours PrEP est judicieux ou pas? Ou est-ce que ce serait superflu? Ou est-ce que ce serait inefficace? Il faut vraiment aller chercher, et après ça c'est au bout d'un certain nombre d'entretiens, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de prendre la PrEP?
De partir de
ça, c'est vraiment, une fois de plus, c'est propre à chacun et c'est aussi aux personnes qui viennent nous voir de savoir si c'est ce qui pourrait leur convenir ou pas. Nous, on est là pour expliquer comment ça marche, pour essayer d'orienter, d'accompagner et vraiment de donner quelques outils. Mais après, c'est vraiment à la personne de prendre la décision si elle souhaite partir sur ça ou pas. Dans sa propre vie, dans sa propre sexualité, dans ses propres habitudes, dans ses propres prises de risques.
Une question?
Oui, sur un moment dans le film, il parlait des populations à risque, et tu l'as dit, il me semble aussi, à un moment dans ton discours, des personnes à l'étranger, tu as utilisé le terme migrant. Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que moi, ça me titille un peu l'oreille, ce genre de propos?
Non, mais en fait, c'est une réalité. Okay. Aide, vraiment l'association Aide. Il y a des publics cibles, et souvent, en fait, c'est des personnes précaires qui sont dans la précarité. Je dis le mot migrant, mais parce que ça nous arrive d'aller dans les squats de migrants, et on essaie d'accompagner et de faire de la santé globale, pas juste aller faire du dépistage pour voir si la personne a le VIH ou l'hépatite C, mais de voir qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait se mettre en danger sur ces sujets-là. Et souvent, c'est les personnes qui n'ont pas de logement, qui n'ont peut-être pas de revenus, qui sont un peu trimballées de droite à gauche, et finalement, leur santé, c'est pas le premier sujet, c'est pas le plus important, et quand on n'a pas une maison, qu'on n'a pas des revenus, qu'on n'a pas une vie stable, c'est compliqué de se prendre en charge et de faire attention à sa santé. En fait. Donc je parlais des migrants, mais c'est aussi des travailleurs ou travailleuses du sexe, qui pareil sont un petit peu des reclus de la société, on n'est pas. Déjà elles sont hors la loi. Il y a des combats qui sont menés pour ça. Elles n'ont même pas l'idée ou même pas l'envie de franchir la porte d'un CG d'un hôpital. Elles seront mal vues, elles seront jugées, elles le savent et c'est le cas, de toute façon on le voit dans la société de tous les jours. Il y a les consommateurs de produits. Qui malheureusement ils sont devenus dépendants d'un produit et pourtant ils mènent des vies comme toi et moi, comme toi, et pareil, d'aller raconter ça à un médecin, d'aller raconter ça à un infectiologue, d'aller raconter ça et puis d'être obligé de franchir la porte d'une structure hospitalière publique, ça n'a pas le même effet que de franchir la porte d'une association où il y a forcément du non-jugement. Une association qui en plus se dit non-jugeante, bienveillante et qui est là vraiment pour accompagner de A à Z, parce que certes on va faire le dépistage, on va s'occuper pour les migrants en l'occurrence de les accompagner pour faire les papiers, de payer même les différentes taxes qu'il y a pour n'importe quelle démarche administrative. Et sur le logement, on va essayer de les accompagner alors peut-être vers un infectiologue, et vers une assistante sociale à côté, et vers une autre association qui pourra les aider pour d'autres sujets sur lesquels ils rencontrent des problématiques.
Et juste peut-être pour rebondir aussi sur la question des parcours de logement, il y a aussi la question de... En fait, par exemple, on peut du coup être porteur de VIH, mais pas en parcours migratoire, c'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas forcément avec, en tant que séropositif, c'est aussi des fois dans le parcours migratoire, parce qu'il y a des violences qui peuvent être subies, qui sont par exemple sexuelles, ou en arrivant du coup sur le sol français, et que c'est pas forcément, quand on dit les personnes par exemple qui sont issues de parcours migratoire, c'est pas forcément qui arrivent du coup avec du coup le VIH de leur pays, entre guillemets, parce qu'en fait ça se fait aussi dans le système, enfin dans un parcours de précarité, et du coup dans un parcours aussi où il y a de la vulnérabilité et que du coup il peut y avoir du coup de la violence et notamment des violences sexuelles et notamment des risques de transmission, parce que du coup ça se fait pas avec de la protection toujours, les violences.
Alors sur les données épidémiologiques, sur les 6200 cas qui sont découverts chaque année, qui stable depuis 2010, on n'arrive pas à baisser le seuil, les dernières données là, de novembre du BEH, du bulletin épidémiologique et du Conseil national SIDA, VIH-SIDA, les données sont qu'effectivement sur ces 6000 nouveaux séropositifs découverts, on a autour de la moitié, un peu plus de la moitié de personnes qui sont des hommes ayant des relations avec d'autres hommes, et la grosse majorité d'autres personnes, peut-être 40%, entre 38 et 40%, qui sont des personnes étrangères, hein, on dit étrangères, on ne dit pas migrantes, qui essentiellement d'origine, de pays d'origine subsaharienne, et les données qui sont, malgré tout, parce que, comme disait Joseph, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne se font pas, ne sont pas diagnostiquées, mais dans les courbes et les estimations qui sont faites, hein, les croisements, les cohortes qui sont faites, la majorité de ces personnes étrangères ont été contaminées en France. Mmh. En France. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui sont dans une situation de grande précarité, très souvent. C'est la précarité. Et là, ils n'arrivent pas avec, forcément, et la majorité se contamine en France.
Est-ce qu'il y avait une question ? Non, j'ai eu l'impression qu'il y avait une main qui se levait, mais est-ce que je me trompe ? Non ? D'accord. Si tu avais envie de poser une question ?
Non, c'est
ça. Ah, d'accord, pardon, excuse-moi, c'est juste que j'ai eu l'impression. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou questionnements, que ce soit par rapport au film ou par rapport, du coup, justement, aux transmissions des IST, qui peuvent être en question encore ? Je sais pas, est-ce que vous y avez des questions ?
Qu'est-ce que le film vous a fait ressentir ? On entend des souffles, mais... ça fait réfléchir.
Mais ça fait... Moi, je trouve que ça fait une petite piqûre de rappel, quand même. Parce qu'on a... Enfin, on a tendance, c'est peut-être moi, dans mes activités, dans ce que je fais, en fait, à ce qu'on fait. C'est des choses à discuter. Finalement, le VIH ou le SIDA fait plus vraiment peur. Et de moins en moins de personnes... protège, enfin, que ce soit contre le VIH ou les autres IST, en se disant que finalement on n'en meurt plus. C'est plus si grave que ça, et puis de toute façon il y a des traitements. Donc si vraiment vous venez à être contaminé par le VIH, on n'en mourrait pas, quoi. Bon, cela dit, c'est quand même un traitement à prendre à vie. Un petit cachet qu'on pense tous les jours. On est obligé de se rappeler tous les jours parce qu'il faut avoir une observance parfaite pour être strictement détectable et pour du coup préserver son système immunitaire et essayer d'enfouir dans les réservoirs au maximum le virus et la charge virale. Et une fois de plus pour protéger les différents partenaires avec qui on a des relations. Je pense qu'il faut aussi se mettre en tête qu'on a une fois de plus de la chance d'être en France. Parce que 1 270 €, en fait, vous travaillez au SMIC, vous balancez votre SMIC pour rester en vie. Ça peut aller vite. Il y a des personnes qui peuvent vivre 10 ans avec le VIH sans qu'aucune maladie opportuniste vienne détruire leur système immunitaire et détruire leur vie. Mais ça peut aussi se faire en 3 ans, 3-4 ans. Et qu'il y a d'autres moyens en fait, de se protéger, de protéger les autres. Quoi. Enfin, c'est vrai que de mettre de côté le préservatif et se dire finalement enfin, ça va aller, on va me couvrir et ça va bien se passer, certes. Mais c'est là, quand même. Je pense que c'est là toute la vie. Une fois qu'on est contaminé, c'est pas pour 2 mois, c'est pas pour 2 ans. Et ça reste là. Et il y a une sérophobie qui est quand même ambiante, qui reste ambiante, et de par ce film et de par le passé, de par ce qu'ont vécu certaines personnes, le sida ça fait peur quand même. Le VIH ça fait peur. Alors on a beau se dire qu'on vivra, on vit bien avec notre corps, notre santé vit bien avec. Et psychologiquement, avec toutes les personnes qu'on va rencontrer, avec la société, et puis les différents échanges qu'on va avoir, on est quand même une personne avec une maladie chronique. Je dis pas que c'est grave, que c'est dramatique, mais si on peut essayer de l'éviter, réfléchir un peu avant et du coup essayer de se servir, de se renseigner sur les différents différentes stratégies de réduction de risque qu'on peut avoir chacun pour soi, parce qu'en fait, à la base, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi et pas juste de sa santé globale, de sa vie. Enfin de... Moi, ça me paraît important de se poser quand même plus que deux fois la question.
Et justement, sur ce que disait José, sur le fait que peut-être que, en tout cas, dans la société, on entend un peu moins qu'il y a des risques de transmission, peut-être du VIH. Qu'est-ce que vous en pensez, ou qu'est-ce que vous entendez autour de vous? Parce que du coup, là, c'est aussi la parole de personnes qui travaillent autour de ces questions-là. Mais vous, du coup, dans les gens qui vous entourent, est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose dont les personnes ont peur ou pas du tout? Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Et vous-même.
Et vous-même.
Et vous-même.
Oui.
Je trouve que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé.
Tu trouves que c'est un sujet qui n'est pas assez abordé?
On n'en parle jamais, en fait.
Tu veux dire dans quel site tu penses? Ouf, là, pardon. Je suis désolée, j'ai pas très bien entendu, excuse-moi.
On n'ose pas demander, on n'ose pas savoir, se renseigner sur une seule personne.
Ce serait un sujet qui est un peu tabou, tu trouves?
Peut-être, oui.
Ouais. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez?
Encore, t'as
ouais.
Bah, je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à se dire ça arrive aux autres, ça arrive pas à moi. Ou... Comme vous pourriez le dire, par exemple, les gens qui font des excès de vitesse sur la route et qui ont des accidents, on dit ça arrive aux autres, pas à moi, et peut-être par une hypocrisie, je sais pas. Et on peut se dire que ça arrive, ouais, non, ça arrive aux autres, pas à moi, et du coup, on n'est pas conscient du risque. Des fois, je sais pas.
Ok.
J'ai l'impression que tu dis que c'est un sujet un peu tabou, en fait.
Ouais, je dis, ouais, c'est un sujet de...
Mais comme la sexualité, t'as ouais, complètement.
Tu voulais... Qu'est-ce que...
J'avais juste une question. Est-ce que la façon dont les sociétés sont montrées dans ce film, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'elles sont vraiment de nos jours? Est-ce qu'il y a un décalage, ou est-ce que c'est ça a changé depuis, ou est-ce que...
Alors moi, je ne sais pas trop vraiment ce que
tu veux dire. Ça a bougé, hein, ça parce qu'en oui. 90, on était dans la mise au point de traitement, qui était très lourd, et tout comme l'annonce diagnostique, enfin, de début des années 80, que ça a été découvert aux États-Unis, en France, c'est arrivé Europe dans les années 84-85. Le sang contaminé, on devait pouvoir, on savait le trouver, le détecter. Mais bon, il y avait effectivement des marchés derrière qui faisaient que... Eh bien, on freinait. Oh, c'est pas si grave que ça, etc. Il y a eu un manque de prise de conscience de l'ampleur du phénomène épidémique qui était mortel. Les gens, en 2 ans, 3 ans, ils mouraient. Dans les années 80, jusque dans les années 2000, les gens mouraient comme des mouches. Comme des mouches. C'est une réalité. En France, ce n'est plus le cas. On va en Afrique, dans d'autres pays sous-développés, les gens continuent à mourir très souvent, puisqu'ils font la maladie sida. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'effectivement, la maladie sida en France, je ne vais pas dire qu'elle est... on arrive à faire en sorte qu'elle ne se développe pas. Hein, toutes les complications qu'il peut y avoir. C'est vrai que... Alors aujourd'hui, sur les traitements, les entreprises, les recherches, elles peuvent encore évoluer, parce qu'il y a encore des promesses. Savoir s'il y a un frein dans la... C'est difficile de le dire. Maintenant, on est dans des entreprises commerciales. La pharmacopée, elle fait... Enfin, tout, c'est à la fois un monde de recherche, mais un monde d'argent. Ça, c'est vrai pour tout type de médicaments. Pourquoi on prend l'un, pas l'autre? Pourquoi celui-ci vaut... Bon. Et pour, donc, aujourd'hui, on n'est absolument pas dans le tableau quand même des années 90, parce qu'on sait, il y a des progrès à faire, mais on sait déjà beaucoup de choses, et on peut apporter beaucoup de choses. Le problème, c'est le coût. Ça, c'est important. Et quel est l'argent qui est mis dans le pot commun au niveau de l'Agence mondiale pour faire évoluer, pour le rendre accessible aux différents pays, au niveau politique, hein, quelles sont les avancées qui sont faites et pas. Je crois que c'est beaucoup dans ce sens-là que ça se pose, parce que des moyens, il y en a. Il y en a, en termes de traitement. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les pays où il n'y a pas le choix de traitement? Et on voit les catastrophes, enfin les catastrophes humanitaires, moi je vais jusque-là, hein, notamment dans toute l'Afrique noire, c'est terrible, parce que non accès au traitement.
Et si je ne me trompe pas, les chiffres, c'est 37 millions qui sont porteuses, 37 millions de personnes dans le monde qui sont séropositives.
Là, j'ai mis 137 millions. On a des chiffres. Non, dans le monde, c'est 137 millions de personnes. Non, 37 millions, ce ne serait pas beaucoup. Hein.
Déjà trop.
Trop. Mais on est combien? 9 déjà milliards, trop. 10 milliards, oui. Non, 7, c'est 137 millions. Je vous ai dit en début de soirée.
Oui. Du coup, je veux savoir, au niveau du. Avec le renouvellement de la population, le chiffre est stable. Au niveau mondial et au niveau national, le chiffre de personnes qui sont contaminées du coup au VIH.
Alors en France, je le disais tout à l'heure, on n'a pas éradiqué l'épidémie, elle n'est pas en décroissance, hein, la courbe n'est pas en décroissance, elle est stable. On tourne depuis 2010 autour de 6200-400 personnes qui sont nouvellement diagnostiquées. Ce sont ceux qui sont diagnostiqués. Après, il y a tous ceux qui ne se font pas dépister, qui ne connaissent pas leur séropositivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, au niveau mondial, on n'est pas dans une décroissance, on n'est pas dans les années 90, la courbe n'est plus au même niveau, mais on n'est pas dans une chute de l'épidémie complète, du tout. La courbe ne s'inverse pas dans la baisse du développement de l'épidémie. Ça, elle n'est pas infléchie encore. Mais sur quoi s'interroge effectivement ces 6200 cas, par exemple, en France, qui apparaissent chaque année? S'interroge quoi? S'interroge les dispositifs de prévention, exactement, hein, les dépistages, voilà, c'est le système de prévention que s'interroge. La politique de prévention que l'on a en France par rapport à ces maladies, puisqu'on peut se protéger, donc...
Et qu'on a de plus en plus d'outils de prévention. C'est là où la question est posée, c'est que ça fait bientôt 10 ans que les chiffres ne bougent pas.
Oui.
Il y a de nouveaux outils de prévention qui sortent, qui sont de plus en plus perfectionnés. Il y a de plus en plus d'associations, il y a de plus en plus de personnes qui n'attendent plus que les personnes viennent vers elles pour se faire dépister, mais qui vont vers les personnes, vers les populations cibles, vers les populations qui pourraient être les plus fragiles ou les plus amenés à être exposés vulnérables aux différentes IST, VIH, hépatite et les autres.
Oui, tu voulais.
Par rapport justement à la lutte pour la prévention, est-ce qu'il y a un peu un rapport de force avec notamment l'éducation nationale? En tout cas, est-ce que les associations spécialisées dans la lutte VIH-SIDA engagent ce rapport de force ou c'est collectivement porté pour les trois séances d'éducation à la sexualité obligatoires à l'heure actuelle?
Et obligatoires, non, mais je crois qu'elles sont, en fait, elles sont dans le programme.
Oui.
Sauf que les programmes sont déjà difficilement menés à terme par les instituteurs, les professeurs. C'est des sujets qui restent quand même assez sensibles et tu le disais tout à l'heure, un peu tabou et... Il peut y avoir une certaine gêne, enfin, selon chacun, de parler de tel ou tel sujet avec des élèves, de parler de sexualité, de parler de pratiques sexuelles, de parler de prévention. Donc certains enseignants, certains professeurs, enfin, pour en avoir rencontré, le mettent dans leur programme, le calent à une certaine date, et puis on en parle franco. D'autres, et je peux le comprendre, le mettent à la fin du programme, et puis on n'en parle pas. Des associations comme Aide jusqu'en 2008 faisaient des interventions dans les milieux scolaires. Depuis, ils ont retiré en fait parce qu'ils n'avaient plus les financements de par l'État, de par les ARS. C'était plus leur job, c'était plus leur boulot. Mais c'est vrai qu'on se demande aujourd'hui finalement qui c'est qui le fait, le boulot, vu que c'est plus le c'est plus l'éducation nationale, puisque ça en est un petit peu déchargé, qu'on peut le comprendre, enfin, il n'y a plus de temps, les profs, les instituts sont débordés de base, sans tout ça déjà. Donc heureusement qu'il y a des associations comme le planning familial, comme Diversité Pastel, comme plus aide, mais SOS Homophobie, ils font énormément d'interventions et de prévention dans les établissements scolaires, jamais assez. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a un combat à mener là, parce qu'on le voit dans les différents établissements qu'on a pu faire déjà dans le département. Il y a une demande sur la sensibilisation, sur la prévention. Il y a un manque de connaissances, il y a un manque de... Et puis les élèves, les ados, même les adultes sont demandeurs, sont super intéressés de par les évolutions qu'il y a pu avoir les dernières années, les avancées aussi. Et ils sont demandeurs de pouvoir se protéger eux-mêmes, de pouvoir protéger leur entourage, de pouvoir protéger leurs enfants et leurs amis, leur famille, quoi.
Toujours sur Radio Albigès dans votre créneau conférence, et on vous propose ce soir d'écouter les échanges qui ont suivi la projection du film 120 battements par minute sur les débuts de la création du groupe militant ACT UP. Au micro, vous pouvez entendre notamment des représentantes du planning familial du Tarn, de l'association Diversité Pastel, de l'association Aide et de l'association Le Refuge.
Après, juste pour rebondir là sur les demandes justement des établissements scolaires, nous, en tout cas sur le département du Tarn, je ne préparerai pas forcément les autres départements, mais nous, on a une demande quand même de la part des établissements, que ce soit lycée, là dernièrement MFR par exemple, de travailler justement sur la question de la contraception, oui, mais des IST aussi, que ce soit sur les questions de transmission, de type d'IST qui existent. Et du coup, il y a encore des questions aussi de la part des jeunes, mais aussi des enseignants, de dire bah, j'ai peut-être pas toujours en tout cas les clés pour répondre à mes élèves, mais j'ai envie qu'il se passe quand même des choses, et que du coup on fait appel à des assos quand c'est possible. Mais il y a quand même une demande, en tout cas moi je trouve, des établissements, pas primaires mais secondaires on va dire, quand même de bosser sur la question de la contraception, oui, mais des IST aussi. Enfin, moi je le ressens comme ça.
Ah non, mais je suis complètement d'accord. La demande est croissante.
Peut-être parce qu'il n'y a plus des budgets aussi sur la prévention spécifique IST, comme tu disais, là, par exemple sur aide. Du coup, ça vient dans un fonctionnement global, peut-être. Du coup, de dire, on va aborder la vie affective et sexuelle, mais aussi du coup la question des IST, mais aussi la question de la contraception. Pas forcément en tant que sujet unique, mais du coup inclus dans un programme un peu plus large.
Moi je trouve qu'elle est super bien faite, la scène où justement on les voit ACT UP qui viennent dans le
lycée,
parce qu'elle est super réaliste, quoi. Enfin, genre tous les cours d'éducation sexuelle qu'on a eu pendant les études, c'est exactement cette réaction qu'on a eue en tant qu'élève quand le prof commence à nous en parler. Mais en même temps, les mots crus qu'utilise ACT UP, au final, c'est peut-être cela qu'on aurait dû entendre, quoi. Et même si c'est présenté de manière assez crue, même si on est là pouffant quand on regarde les brochures, au final... la brochure, on la garde sur nous, et puis on la regarde plus sérieusement quand on rentre le soir. Enfin voilà quoi. Et moi je reste traumatisé à vie de mon cours d'éducation sexuelle au collège où on me montre une vidéo d'accouchement. Et on me dit, voilà, c'est ça.
Tu veux dire le cours sur la reproduction, pas l'éducation à la vie affective et
à... Non, mais c'était tout ensemble, mais on avait une prof d'SVT très particulière.
D'accord.
Mais voilà, et donc, et je suis pas si vieux que ça, hein. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça, et je me demande où ça en est justement. Tant mieux, il faut qu'il y ait des associations qui viennent en parler, parce que clairement les profs, comme tu l'as dit, ils ont déjà beaucoup de choses à faire, et c'est bien s'il y a des associations un peu plus sérieuses et qui savent de quoi elles parlent, qui viennent en parler, quoi.
Après, quand même, moi je mettrais quand même un bémol sur le fait que du coup il y a quand même des établissements scolaires dans lesquels nous on travaille, par exemple, où il y a des enseignants qui se sont formés, parce qu'il y a des plans de formation aussi au niveau académique sur devenir, on va dire, intervenant sur l'éducation à la vie affective et sexuelle, et il y a des établissements où il se passe vraiment des choses, et chaque niveau. Peut-être pas à hauteur de 3 séances par an et par niveau, mais il y a au moins une action qui est faite, on va dire 6e, 5e, 4e et 3e. Du coup, c'est vrai que ça dépend aussi des établissements. Il y a vraiment, est-ce qu'il y a une équipe qui porte ce sujet ou pas, quoi. Et que, voilà, c'est pas tous les établissements, mais il n'y a pas que la vidéo sur l'accouchement.
Je pense que c'est un exemple extrême. Mais...
Non, mais je dis ça parce que j'ai dû voir la même vidéo que toi, mais à l'époque, et c'était le seul cours également. Mais c'est pour dire que, y a quand même, l'EducNAT s'en saisit aussi dans certains établissements quand même. Tu avais une question ?
Par rapport à la marche des fiertés, est-ce que vous pensez que c'est vraiment un moyen efficace ou pas de sensibiliser les populations par rapport à tout ce qui est transmission, MST, des choses comme ça et tout ?
Est-ce que
La gay pride.
Est-ce que la marque fierté, ou qu'on appelle aussi des fois gay pride, c'est ça? Tu trouves que c'est un moyen, en tout cas, de prévention ou de visibilisation? C'est ça que ta question?
Dans le film, ça a été mis en question à un moment, la visibilité qu'il y avait par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a vraiment une bonne transparence par rapport à dans ces manifestations? Est-ce que la manifestation permet de vraiment comprendre les enjeux de tenir le semestre?
Moi, je reposerai la question à la salle, en fait. Du coup, à l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que vous avez l'impression que quand vous entendez parler de la marche des fiertés, par exemple, ou la Gay Pride et tout ça à Toulouse, sur Albi, sauf erreur de ma part, pas très existante, du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'on entend parler justement de la question de la prévention?
Pas du tout.
Voilà, du coup, je pense que la réponse, elle vient pas forcément des assos aussi là-dessus, mais plus qu'est-ce qu'on en voit, en fait, qu'est-ce que la société, du coup, elle garde, du coup, de la marche des fiertés. Je suis pas sûre que ça soit la question de la prévention.
Non.
Mais je sais pas si, vas-y.
Moi, inversement, c'est plus les discriminations qui peuvent être suivies par les différentes minorités, mais après, la conception, enfin, c'est pas quelque chose qu'on retient en premier quand on parle de la Gay Pride.
Quand on est dans la marche, oui. Cette question est abordée, mais quand on est extérieur de la marche, pas du tout. Enfin, les personnes qui regardent à la télé les infos, la question de se protéger, pas du tout.
Je sais pas, les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez, quand vous voyez, justement, comme je disais, que ce soit à la télévision, peu importe, quand on entend du coup des émissions de radio ou quand on est présent au sein de la marche des fiertés, quel est le message que vous retenez? Est-ce que c'est la question, justement, peut-être de la lutte contre les discriminations? Est-ce que c'est la question de la prévention? Qu'est-ce que... Je pose la question de deux côtés. C'est un peu une journée où... Qu'est-ce que vous voyez, vous, à travers la marche des fiertés? Parce que je pense qu'on a aussi une interprétation différente, chacun et chacune, de ça.
Moi, il me semble que c'est plutôt une journée pour donner de la visibilité. Une fois de plus, à des minorités qui ont été victimes de précarité de par leur sexualité, leur orientation sexuelle, leur identité de genre et leurs différences. Enfin, de mettre en avant et de mettre en lumière ces différences pour qu'elles deviennent en fait une force plutôt qu'une faiblesse. Et comme on dit souvent, à plusieurs, on est toujours plus fort. Je pense qu'il y a beaucoup de combats et on le voit dans le film. Qui ont été gagnés et qui ont été menés parce que des personnes se sont rassemblées, parce que des personnes ont discuté, ont réfléchi et ont essayé d'apporter du positif et des évolutions en nombre. Seul.
Moi, c'est un rendez-vous assez... comment on peut dire ça? C'est un rendez-vous de toutes les personnes qui ont envie de dénoncer et déconstruire l'hétéronormativité, et c'est un rendez-vous qui est politique dans le sens du combat, mais aussi dans le sens des stratégies de visibilité, parce qu'on fait appel à une identité visuelle, à une identification forte, et que c'est très empreint d'autodérision, c'est très empreint de satirique, c'est vraiment c'est un rendez-vous de moquerie générale de l'hétéronormativité.
Pour moi, il y a la question de la revendication des droits aussi. Par exemple, là, on a entendu parler quand même sur la question de la PMA, par exemple, ou de la GPA. Alors après, c'est pas porté par toutes les assos non plus, mais pour moi, il y a cette question-là aussi, de revendication aussi, de visibilité, mais aussi de revendication de dire, même si les discriminations sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 20 ans, il n'empêche qu'il reste quand même des choses qui sont encore pas acquises. Et pour moi, on peut encore parler au présent, en tout cas, sur la question de... du besoin en tout cas d'aller vers plus de droits et plus d'égalité tout simplement quoi. Mais ça c'est mon interprétation, je parle pas au nom du planning par exemple, je parle vraiment en mon nom là-dessus. Tu voulais rajouter?
Oui, mais le mariage pour tous a été aussi gagné grâce aussi à ces marches de fierté. C'était une des revendications aussi qu'ils ont essayé de faire surgir. Et bon, petit à petit, en fait, les différences se sont trouvées être admises et ça a donné à certaines lois qui ont été votées aussi pour ces personnes-là.
Est-ce que ça répond un peu à ta question?
Moi, je voudrais rajouter juste une chose sur, quand même, par rapport à la prévention, parce que je pense que, je crois qu'il faut aller un peu aussi au-delà, c'est pas aux associations de faire la prévention primaire, on est là par défaut, bien souvent. Aujourd'hui, c'est comme ça, c'est important que ça y soit, l'éducation nationale, c'est pas son premier rôle, on parle en termes de sexualité ou autre, hein. Moi, je parlerai de l'être, il naît, et sa santé en tant que vie, hein, parcours de vie, c'est-à-dire une santé positive. On aborde, et même en termes de prévention, mais ça c'est pareil, j'engage que moi, même nous dans nos discours, on aborde les discours, notamment par rapport aux IST, hein, l'approche, et on en parle par rapport à la maladie. Et tant qu'on n'aura pas des discours, non pas partir de la maladie pour aller faire de la prévention, mais partir de sa santé et d'être acteur de sa santé, et ça, ça fait partie de l'éducation générale aussi, c'est quelque chose qui est indispensable, à mon avis, pour se sentir aussi responsable de sa santé. Alors effectivement, des actions de prévention, tout ça, il en faut toujours, mais il faut aussi au niveau des États, au niveau de l'approche, au niveau du médecin traitant, au niveau de la sécu, il faut que ça existe, ça c'est très important, mais qu'on ait une approche positive de la santé, non pas avoir une approche de la maladie. Bon, je vais peut-être un peu haut dans mes... Mais c'est dans les concepts de santé, concepts de santé publique et concepts de santé, c'est-à-dire pour moi de vie, c'est-à-dire d'approche. Et ça me paraît très très important et ce sont des choses qui se développent, notamment dans les derniers rapports par rapport au VIH-SIDA. Il y a le Conseil national du VIH et des hépatites qui effectivement parle de cette approche, cette façon d'aborder la vie et ses accidents de vie à travers le corps, parce que moi, on pourrait parler des pathologies comme ça, des maladies comme ça, de ces accidents de vie, de machines, mais qui sont dans un contexte, et comment on fait pour préserver ça, pour se préserver aussi de certaines maladies. C'est-à-dire que certaines populations, des communautés différentes et tout ça, bon, si les discriminations étaient quand même aussi moins présentes, l'approche de les prises de risques seraient sans doute aussi différentes. Le système de société très inégalitaire que l'on connaît en France, même ailleurs, hein, avec des niveaux de vie, des conditions de vie, des responsabilisations des personnes qui sont différentes, ont des conséquences très importantes sur la prise en charge de sa propre santé. Ça, je pense que c'est aussi des facteurs, alors pas nous, associations à poser, mais c'est au niveau des gens qui nous dirigent, qu'il faut interroger, à mon sens, aussi. Il faut qu'on ait les deux combats, pour moi.
Moi, j'ai envie de réagir sur ce que tu dis, je la trouve intéressante d'un côté, mais que ça me fait aussi un peu peur, en fait, que le fait qu'on responsabilise les gens sur leur santé, je trouve ça intéressant, mais ça a aussi un effet très individualiste de la santé, chose que je ne peux pas accepter dans le sens où on n'est pas responsable à tout moment de la santé, parce que quand on est pris dans des rapports de pouvoir avec un partenaire, une partenaire, se dire qu'on est responsable de sa santé et que du coup on accepte pour différentes raisons un rapport non protégé, je trouve que c'est assez traumatisant comme référence pour moi.
Mais je crois qu'on ne sait pas, je me suis fait mal comprendre, c'est absolument pas ce que je voulais dire.
Parce que c'est comme ça que j'ai compris.
C'est pas dans le rapport individuel, c'est dans l'approche de la santé, d'une santé positive, hein. C'est pas dans les rapports individuels, c'est par rapport effectivement aux États. Et quel message aussi ils peuvent porter. Ils peuvent porter la responsabilité des États, je veux dire.
Okay,
non, pas pas la responsabilité individuelle. Bah, si tu as une certaine politique en termes d'éducation, si tu as une approche du corps, même l'éducation nationale, une autre façon d'enseigner, une autre façon, ça rend aussi des personnes qui ont aussi une autre façon d'aborder les choses. Maintenant, ça contribue aussi, à mon avis, maintenant, je ne parle pas de comportement individuel. C'est le message éducatif que porte notamment l'éducation nationale, parce qu'on en parle beaucoup.
L'État, quoi.
Oui, notamment l'éducation nationale et l'État, hein, puisqu'il est porteur d'un certain message, il porte un certain message d'éducation, mm-hmm. Et bien celui-là est à remettre en cause. C'est dans ce sens-là.
Sur ces sujets-là, moi, sur j'ai l'impression que le message
bien donc,
est même transparent et on ne le voit pas.
Bien sûr. Et il y a une responsabilité à l'État et des politiques de l'État en termes de santé publique.
Je suis désolée, je vais être un peu peut-être embêtante, mais je me dis que le temps là, il est un peu long, il y a pas mal de personnes qui sont parties, peut-être on peut continuer la discussion un peu en informel, mais voilà, je me dis, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est juste que j'ai l'impression que là, on est déjà dans des débats,
oui,
et je me dis peut-être que c'est des choses qu'on peut avoir aussi dans un deuxième temps, enfin voilà, après, c'est pas pour couper du coup la discussion, mais j'ai l'impression que là, du coup, on est sur des positions...
Pour aborder, voilà. C'était pour aborder, élevé aussi, que... Je pense, moi, que quand même, il est important que l'État soit interrogé et qu'on l'interroge.
Je ne sais pas si vous avez d'autres questionnements aussi, de ne pas repartir avec là ce soir. Du coup, voilà, si vous avez envie, en tout cas, c'est possible qu'on prenne un temps de discussion informelle, que ce soit autour des plaquettes qu'on a mis un peu d'infos. Ou voilà, si vous avez des questions, ça peut être des questions aussi un peu individuelles aux différentes associations, en tout cas, qui sont présentes. Peut-être, je me disais, vous n'avez pas dit diversité pastel que vous faisiez une permanence, ça peut peut-être être chouette d'avoir
cette info. Et du coup, juste diversité pastel, là. Ouais. L'association LGBT tarnaise, qui s'est donné pour objectif d'accueillir, d'écouter, d'informer, d'orienter le public et tout public sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Qui tient une permanence tous les mardis de 17h30 à 20h30, 7 rue des Muettes, à la maison de quartier du Patus Créma, derrière le tribunal à Albi. Lors desquels elle propose des permanences de dépistage, des entretiens individuels, d'écoute, qui sont effectués par des bénévoles formés. Et en dehors de ça, elle fait circuler des expositions de lutte contre les discriminations. Dans différents établissements et organise des événements de sensibilisation et de prévention tout au long de l'année. Ça peut être une tombola pour le site d'action, l'autodrague pour le site d'action. Voilà, plusieurs événements sont organisés dans l'année sur différents sujets.
Des événements festifs.
Des événements festifs
aussi.
Pour faire la fête. Donc voilà, il y a un site internet, c'est www.diversitépastel.fr, où vous retrouverez toutes les infos et tous les événements qui sont prévus chaque mois. Où vous pouvez également retrouver toutes les expositions, réservées, les expositions. Et voilà.
Prochain dépistage le 17 décembre.
Prochain dépistage le 17 décembre, si vous en avez envie, vous faites en fait.
Oui.
Ça, rappelez-vous, les membres de différentes associations, il y a possibilité de. Occasionnellement donner un coup de main, je parle d'un petit truc des affiches au niveau de la fac, quoi, et sans pour autant adhérer à l'association.
Alors sur le planning, pas de problème. On est présent là cette année, je ne sais pas si vous étiez là au début, j'ai essayé d'expliquer, une fois par mois sur des permanences, le mercredi. Sur le site de la fac, vous aurez les dates. La prochaine, ça doit être le 13 ou 14 janvier. Et comme on a organisé cet événement un petit peu avec la fac, mais voilà, il y a de la prise de contact à prendre, etc. On va organiser, enfin, on suscite deux autres événements autour de la Journée des Femmes, le 8 ou 11 mars, et autour de l'organisation du complot. Voilà, où on est présent aussi. Et donc là, on travaille avec les comploteurs, qui vont nous inviter. Vous pouvez les rejoindre et je crois que le thème sur la fac tourne autour de la vie affective et sexuelle. Donc là, c'est une bonne occasion d'apporter ses idées, ses bras, son enthousiasme, sans problème.
Ouais. Peut-être juste pour compléter, c'est de dire que nos deux assos, elles fonctionnent grâce aux bénévoles quand même. Voilà, qui dit fonctionne avec des bénévoles, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Voilà. Que ça soit à diversité pastel.
Après, il peut y avoir des montages d'action et tout ça, mais il y a des choses, on peut s'investir. Moi, je connais tel truc, je vais. Pour monter un projet événementiel, tout le monde peut être là. et coller des affiches aussi, et réparer les grilles du planning qui nous sont démontées, déchirées.
Ça va, elle a un traumatisme. Elle a un traumatisme.
Non, c'est pas un traumatisme.
C'est donner envie aux gens de venir.
C'est donner envie. Voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Voilà. Lundi, j'étais avec une personne à la fac, et voilà, on était là en train de remettre d'actualité la grille, pour le dire positivement. Et voilà, il y a des trucs tout bêtes, hein. Il y a plein de choses à faire.
C'est aussi se saisir, pour moi, des thématiques. Des fois, par exemple, vous avez envie de mener, justement, je sais pas, une action, une animation sur un temps de permanence ou là sur un ciné-débat.
Complètement.
L'idée, c'est aussi de, bah, justement, de pouvoir porter aussi des envies qui viennent de la fac, parce que c'est encore plus riche. Parce que du coup, nous, on arrive avec nos idées, mais nous, on n'est pas étudiants ou étudiantes. Donc si vous avez des envies, au contraire, allons-y, quoi. Voilà.
Moi, c'est vous qui monopolisez, en fait, vos camarades pour pouvoir, en fait, venir dans ce genre d'événement, quoi.
L'association, que ce soit peut-être le planning familial ou diversité pastel, peut même servir de support et d'appui.
Complètement, hein, c'est ce qu'on fait.
Pour des idées ou pour des événements ou des actions que vous auriez envie de mettre en place. Il y a une équipe, il y a un tout petit peu de moyens et quelques supports. Vous pouvez vous en saisir. Et
plein d'énergie.
Plein d'énergie, plein de monde, plein de bénévoles. On remerciera.
Sur la table, en tout cas, vous avez tous les coordonnées et vous pouvez prendre des petites plaquettes.
Hein, Fleur, tu voulais dire quelque chose?
Du coup, je précise que moi, je suis volontaire au planning familial pour jusqu'à juin, et que le planning familial se donne la priorité pour les années à venir de mobiliser les jeunes à venir rejoindre nos rangs et être jeunes relais auprès de nos camarades étudiants et étudiantes, mais d'autres. Du coup, en effet, s'il y a des jeunes qui sont volontaires, moi, je suis aussi là pour participer et accompagner divers projets, en tout cas pendant ma présence, et qu'après, qui peuvent durer quand je ne serai plus là.
Sur la fac.
Elle est volontaire pour accompagner des volontaires.
Sur la fac.
Ouais.
Merci en tout cas d'être venu ce soir. Et à bientôt.
Et c'est la fin de cette émission sur Radio Albigès. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous. On rappelle que vous avez pu entendre ce soir les échanges qui ont suivi la projection du film 120 battements par minute, un événement organisé le 4 décembre 2019 sur la fac d'Albi. Vous avez pu entendre au micro des représentantes du planning familial du Tarn, de l'association Diversité Pastel, de l'association Aide et de l'association Le Refuge, qui devrait d'ailleurs ouvrir un pôle sur Albi à la rentrée 2020. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission. On rappelle qu'elle va être disponible en podcast très prochainement. Pour la réécouter, si vous êtes intéressé, vous pouvez passer par notre site internet www.radioalbiges.com à l'onglet podcast. Merci beaucoup à vous d'être avec nous sur Radio Albiges et très bonne soirée.